vous suit.
Mais avant, la musique, c'est les titres du journal.
La nouvelle déchetterie de Saint-Maurice se situera au Marais, juste avant Épinasset. L'ancien emplacement sous le C contre la falaise risque d'être victime de chutes de pierres. Protect Tour Wintersa, un nouvel ambassadeur, il s'agit du skieur Laurent Demartin. Le Chorgue rejoint ainsi cette organisation qui veut encourager les acteurs outdoor à s'investir en faveur du climat. En ski alpin, la Tchèque Esther Ledecká vient de remporter la descente féminine de Crans-Montana. Aucune Suissesse ne s'est hissée sur le podium. Et en tennis de table, l'élite européenne a rendez-vous à Montreux ce week-end pour les finales du top 16.
Du côté du ciel, une très belle journée hivernale vous attend d'après Météo Suisse pour ce samedi 26 février. On en fera un point complet en fin de journal. Le journal de midi vous est présenté par Thierry Nicolet. Bonjour Thierry.
Bonjour John, bonjour à tous. On ouvre ce journal avec une très bonne nouvelle pour Fanny Smith qui remporte finalement une deuxième médaille de bronze olympique. Déclassée il y a 10 jours par le jury en finale du ski cross au JO de Pékin, la Villardoux avait alors dû se contenter de la 4e place. Elle avait pourtant franchi la ligne d'arrivée en 3e position, mais les officiels avaient estimé qu'un mouvement de ski vers la gauche avait empêché l'Allemande Daniela Mayer de la dépasser. Une décision contre laquelle la Chablaisienne et Swiss Ski avaient fait recours auprès de la commission d'appel de la Fédération internationale de ski. Cette dernière vient de rendre son verdict et a tranché en faveur de la Vaudoise, qui se part donc de bronze pour la deuxième fois de sa carrière après les Jeux Olympiques de Pyeongchang en 2018. Le reste de l'actualité sportive suivra en fin de journal.
À Saint-Maurice, la déchetterie sous le C risque de recevoir des cailloux dans ses bennes.
Le site est sujet aux chutes de pierres de la falaise et c'est pourquoi le canton du Valais a interdit à la commune d'y imaginer son projet d'agrandissement. À la place, la municipalité agonoise a opté pour le terrain des Marais, un peu avant Épinasset. Un emplacement excentré qui n'est pas un problème selon Marion Délé, conseillère municipale chargée de l'environnement.
C'est vrai que la plupart des gens aussi qui amènent dans les déchetteries qui arrivent avec leur véhicule, leur remorque, c'est aussi qu'ils ont de la place de stocker, donc c'est pas mal les gens qui habitent en villa. Si vous habitez dans un appartement, vous n'avez pas forcément le temps d'entasser autant de déchets que si vous habitez dans une villa où vous avez peut-être une cave ou un garage, que sais-je, et puis ouais, que vous pouvez entasser des déchets pour après aller les amener à la déchetterie. Donc non, pour nous, ça ne nous a pas posé problème de la mettre là. Ça se rapprochait plus de ceux qui avaient besoin de la déchetterie aussi.
À savoir encore que des parois anti-bruit seront installées sur la nouvelle déchetterie afin que sa présence ne dérange aucun riverain. En cas de question, les agonois peuvent s'adresser à la commune par mail. Un sujet signé Valérie Blom.
Laurent Demartin et la nouvelle égérie de Protect Tour Winter.
L'organisation a pour vocation d'encourager la communauté outdoor à un engagement favorable à la protection du climat. Pour y parvenir, la structure se positionne sur 4 aspects distincts, l'éducation, la mobilité, l'alimentation et la politique. Des points chers aux skieurs Chorgue et surtout en adéquation avec les projets qu'ils mènent depuis plusieurs années. From Switzerland with Love et Simply, les deux derniers films du Chablaisien, avaient d'ailleurs pour objectif de minimiser les trajets. C'est pourquoi les efforts d'adaptation ne seront pas énormes pour Laurent Demartin.
Il n'y a pas forcément de gros changements. Moi, j'ai attendu le moment où je me sentais assez légitime pour faire partie de ce groupe. Eux, ils n'ont aucune obligation. C'est juste voilà, de réfléchir à ces voyages plus intelligemment, à ces achats plus intelligemment. Et après, peut-être d'en profiter de Protect Tour pour en parler aux plus jeunes et de faire un petit peu d'éducation dans le bon sens.
Donc l'idée d'être un exemple aussi, peut-être.
J'aime pas le terme d'exemple parce que voilà, personne n'est parfait. Et surtout en tant que skieur, moi j'ai jamais été parfait. J'ai voyagé beaucoup dans ma carrière et je vais pas dire aux gens de pas voyager parce que c'est quelque chose d'incroyable. Mais c'est d'en parler. Et voilà, chacun est à un rythme, à un moment différent de sa vie et habite dans des endroits différents où voilà, peut faire des efforts. Mais c'est simplement d'en parler et après chacun peut avoir son propre raisonnement par rapport à ça.
Des propos recueillis par Quentin Frey. La droite genevoise, l'UDC, le PLR et le centre doivent partir unis dès le premier tour des élections au Conseil d'État en 2023 si elle veut conquérir la majorité. C'est ce qu'estime la vice-présidente de l'UDC suisse Céline Amaudru, qui n'exclut pas d'être candidate à un siège à l'exécutif cantonal genevois.
Cette semaine écoulée a été marquée par l'accélération des événements dramatiques en Ukraine.
Alors que l'intervention militaire russe paraissait imminente, son ampleur n'était pas encore connue mercredi. Mais cette guerre inédite à 2h30 d'avion de la Suisse a chamboulé les capitales européennes. Et elle a aussi affecté l'agenda de la Confédération. Tout cela a inspiré notre correspondant à Berne, Frédéric Nejad Toulami, pour la chronique des pas perdus de ce samedi.
Décidément, dans la vie d'après, tant souhaitée et fantasmée par certains durant le semi-confinement, les choses s'accélèrent et pas forcément comme on le souhaiterait. Souvenez-vous, il y a 3 semaines, notre nouveau président de la Confédération, Ignacio Cassis, avait officiellement déclaré face aux médias Aujourd'hui est une belle journée. Ah, rien de tel qu'un conseiller fédéral souriant qui nous annonce ça avec un charmant accent tessinois pour qu'on se mette à y croire. À nous l'insouciance retrouvée, les petites banalités si regrettées durant les mesures sanitaires. Et voilà que, ce jeudi, le même Ignacio Cassis est revenu faire une annonce officielle aux médias. Mais cette fois, la tonalité n'était plus du tout la même.
Heute ist ein trauriger Tag, wie wir ihn schon lange nicht mehr gesehen haben.
Aujourd'hui est un jour triste, comme nous n'en avons pas connu depuis longtemps. Et rien de tel que de le dire en allemand, plutôt qu'en italien ou en français, histoire peut-être d'insister sur la tristesse. Mais que s'est-il passé entre cette joie publiquement exprimée il y a 3 semaines et cette gravité solennelle désormais affichée? Le maître du Kremlin à Moscou avait donné l'ordre aux forces armées russes de bombarder et d'envahir son voisin l'Ukraine. Non pas que la région russophone du Donbass, dans l'est de ce pays souverain au gouvernement démocratiquement élu, mais bien l'ensemble de l'Ukraine. Une guerre en Europe qui met à mal le droit et les traités internationaux, ainsi que la démocratie. Ces bruits de bottes à la frontière ukrainienne depuis quelques jours avaient déjà perturbé l'agenda de la Berne fédérale cette semaine. Mardi, par exemple, les médias étaient invités par le département des affaires étrangères pour un entretien sur l'adhésion de la Suisse aux Nations Unies il y a 20 ans, et aussi sa candidature à un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Un projet combattu par l'UDC qui estime que cela nuirait à la neutralité de notre pays et à sa politique des bons offices. Et peut-être à ses affaires financières, allez savoir. Mais d'ailleurs, qui siège comme membre permanent à ce Conseil de sécurité de l'ONU? On y compte justement la Russie et son allié, la Chine. Nous aurions souhaité demander à Ignacio Cassis, jeudi, si le fait d'être membre de ce Conseil de sécurité aurait changé quoi que ce soit actuellement dans la politique et les annonces du Conseil fédéral face à la guerre en Ukraine. Pressé par sa participation dans la foulée à une visioconférence avec l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe sur la grave crise provoquée par la Russie, le président de la Confédération a quitté rapidement la conférence de presse. Le temps de dire que la Suisse dénonçait l'agression, mais ne prendrait pas de sanctions directes, il a ensuite laissé ses collaborateurs répondre aux questions. Quant à l'issue de la candidature suisse au Conseil de sécurité des Nations Unies, elle ne sera connue qu'au mois de juin prochain. Espérons d'ici là que le conflit entre la Russie et l'Occident ait connu une issue diplomatique avec ou sans les bons offices de la Suisse.
À noter que selon les estimations, jusqu'à 2000 Ukrainiens pourraient chercher refuge en Suisse. Kiev, justement, s'est réveillé aujourd'hui sous les tirs de missiles russes. Un immeuble résidentiel de la ville a été touché, d'après les autorités ukrainiennes, qui n'ont pas donné le bilan dans l'immédiat. Les forces ukrainiennes ont aussi fait état de violents combats à 30 km au sud-ouest de Kiev, où les Russes essayent de faire débarquer des parachutistes. Quelques 100 000 personnes ont déjà été déplacées et 50 000 ont quitté l'Ukraine, selon l'ONU, en direction des frontières de l'Union européenne, notamment en Pologne, Hongrie et Roumanie. Le bilan des victimes civiles fait état de 198 morts depuis le début des affrontements. Et le régulateur russe des médias a justement ordonné aujourd'hui aux médias nationaux de supprimer de leur contenu toute référence à des civils tués par l'armée russe en Ukraine, ainsi que les termes d'invasion, d'offensive ou de déclaration de guerre. En cas de refus d'effacer des contenus, l'accès à ces médias sera restreint, a prévenu le régulateur qui évoque aussi de lourdes amendes. En ski alpin, le retour à la réalité n'a juste pas été synonyme de podium ce matin pour les Suissesses à Crans-Montana. Pour la reprise de la Coupe du Monde après 3 semaines dédiées aux Jeux Olympiques, Priska Nufer a été la meilleure Helvète sur la première descente du week-end dans la station valaisanne. L'Obvaldienne s'est classée 4e d'une course remportée par la Tchèque Esther Ledecka. Les précisions de notre confrère de Rhône FM, Hugo da Custodia.
La fête du ski suisse, même sans les podiums, présent en nombre à Crans-Montana, le public a salué avec enthousiasme toutes les coureuses à l'arrivée, peu importe leurs résultats, décevants pour certaines, inattendus pour d'autres. Dossard numéro 1, Lara Gout-Bérami a manqué une porte après un saut trop lointain. Corinne Souter, elle aussi très attendue, nous a simplement dit qu'elle n'avait pas trouvé le rythme aujourd'hui. De quoi tout de même entrer dans le top 10, un top 10 où l'on trouve les Suissesses les plus heureuses du jour, celles qui ont finalement manqué le podium pour si peu, avec dans l'ordre Priska Nufer 4e, Johanna Hélène 6e et Michel Guizine 7e. Toutes nous ont expliqué qu'elles pouvaient encore aller plus vite demain, de bon augure. Vous l'aurez compris, les skieuses helvétiques ont joué placé dans une course remportée par la Tchèque Esther Ledecka devant la Norvégienne Ragnhild Mowinckel et l'Autrichienne Cornelia Hutter. Chauffée à blanc, les spectateurs présents en Valais ont tout de même eu un podium à fêter, celui de Fanny Smith, spécialiste de ski cross qui a récupéré sa médaille de bronze des JO. À Crans-Montana, on se console comme on peut en attendant la nouvelle course prévue demain.
Chez les hommes, un slalom figure au programme du jour à Garmisch-Partenkirchen en Allemagne. Et après la première manche, le Genevois Tankinev est en tête, alors que les Valaisans Loïc Meillard et Daniel Hull sont 3e et 4e. Le départ de la seconde manche sera donné à 12h30.
Montreux est la capitale européenne du tennis de table cette semaine.
Pour la 4e fois, la commune de la Riviera accueille les finales du top 16 continental. Que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, le tournoi met aux prises depuis ce matin les meilleurs joueurs d'Europe. Sans oublier les Suisses, la Vaudoise Rachel Moret ainsi que le Neuchâtelois Barry Schmoulet ont été au rendez-vous des 8e de finale. Tous deux profitent en effet de l'organisation de l'événement sur sol helvétique. Mais si ces finales du top 16 européennes se tiendront à coup sûr jusqu'en 2023 à la salle du Pierrier à Clarens, l'avenir est plus flou. Une autre compétition pourrait notamment être mise sur pied à Montreux. Les précisions du président du comité d'organisation, Nicolas Imhoff.
C'est vrai qu'il y a aussi des mouvements dans la Fédération mondiale de tennis de table avec la mise sur pied d'un nouveau circuit très très spectaculaire avec les meilleurs joueurs du monde. Donc il y a peut-être la possibilité pour nous de postuler pour prendre un de ces tournois, mais il y a deux questions principales qui se posent. D'abord, c'est un budget beaucoup plus important que celui que nous arrivons à réunir, donc il faudra avoir des partenaires. Et d'autre part, on n'est pas certain qu'on arrive à faire ce tournoi super prestigieux dans la salle du Pierrier. Il faudrait peut-être louer des infrastructures où on a plus l'habitude d'écouter du jazz que d'entendre des balles de ping-pong. Et ça, c'est évidemment aussi un autre coût et une autre organisation. Donc pour l'instant, on sait que l'année prochaine, on organise le top 16, et puis pour l'avenir, tout est ouvert.
Nicolas Imhoff au micro de Julien Traxel. A noter que ces finales du top 16 européen de tennis de table se tiennent jusqu'à demain à la salle du Pierrier à Clarens. Les finales sont notamment prévues demain dès 15h15.
Merci beaucoup Thierry Nicolet, on vous retrouve à 17h pour un prochain point sur l'actu.